Bonjour à tous, aujourd'hui on est au festival Vivia Cinéma qui fête le patrimoine des films restaurés pour vos luxe à Valence. Et moi je m'appelle Lucille, on est aussi avec
Emma.
Et aujourd'hui on va parler, on va plutôt poser quelques questions à notre invité Thierry Jousse.
Bonjour.
En tant que critique du cinéma, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber sur une œuvre où vous vous êtes dit ça sort du lot?
Bah oui, oui, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, sinon ce serait pas drôle. La critique de cinéma n'a d'intérêt que si on a affaire de temps à autre à des films qui tout d'un coup vous élèvent un peu l'esprit, ou en tout cas vous donnent le sentiment que quelque chose se passe de différent. Donc oui, ça m'est arrivé, heureusement, un certain nombre de fois. Maintenant, je suis plus tellement critique de cinéma aujourd'hui, mais je continue évidemment à voir pas mal de films. Mais c'est, oui, ça fait partie de... On est toujours à la recherche du diamant qui viendra tout d'un coup briller plus que les autres, et ça m'est arrivé avant même d'être critique, comme spectateur, et puis aussi effectivement à certains moments dans des festivals par exemple comme Cannes, mais aussi parfois même en salle tout simplement.
Donc bonjour Thierry Jousse, je voudrais savoir quel est votre film préféré de Youssef Chahine et pourquoi ?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question à propos du meilleur film de Youssef Chahine, enfin de mon film préféré, parce qu'il y en a plusieurs et qu'il en a fait beaucoup. On les connaît pas tous en France, mais il a une œuvre assez importante quantitativement. Moi, j'en ai vu beaucoup parce que j'avais eu l'occasion de travailler, d'aller au Caire il y a 30 ans pour rencontrer Youssef Chahine à l'occasion d'une rétrospective. Donc, j'ai eu l'occasion de voir des films assez rares là-bas. Peut-être que celui que je choisirais, même si je pourrais en choisir d'autres, ce serait peut-être un film qui s'appelle Alexandrie Pourquoi, qui n'est d'ailleurs pas projeté, dans cette exposition, pendant le festival, qui est un film autobiographique autour de sa jeunesse. C'était la première fois qu'on faisait un film à la première personne dans le monde arabe. Donc c'est un film assez important où on montre aussi une relation entre une jeune fille juive et un garçon arabe, musulman, ce qui était à l'époque avait déjà fait scandale, et aussi où il y a déjà une sorte d'approche d'une forme d'homosexualité, ce qui n'était pas non plus quelque chose de très évident dans la société égyptienne de l'époque. Et c'est un film extrêmement vivant qui raconte un peu comment, à la fin de la guerre, Alexandrie, la ville natale de Youssef Chahine, toutes les communautés coexistent. Il y a aussi l'approche des nazis qui vont peut-être envahir Alexandrie. Il va y aller les Anglais qui sont là parce que c'est une colonie anglaise encore à l'époque, et c'est l'histoire d'un garçon qui est Chahine en fait, qui a la vocation du spectacle pour qui c'est plus important que tout, et qui finit par réussir à partir aux États-Unis. Donc c'est cette dimension autobiographique. Je pourrais aussi choisir un film peut-être plus connu et qui va être projeté pendant le festival et dont on montre un extrait dans l'exposition, qui est Gare Centrale, qui est un peu son film mythique des années 50, dans lequel il joue le rôle d'un bossu. Ça lui a fait valoir une popularité énorme, et c'est un film sur assez moderne dans son approche, parce qu'il parle aussi beaucoup du désir, des pulsions aussi que certains hommes peuvent avoir vis-à-vis des femmes, et il en parle d'une manière assez frontale, ce qui n'a pas été non plus très évident à l'époque, parce que ce sont des tabous quand même qui ont été un peu transgressés. C'est quelqu'un qui a finalement transgressé pas mal de tabous, et en même temps il a fait beaucoup de films différents, variés. Il y a aussi des films musicaux que j'aime beaucoup dans les années 50. Je ne vais pas citer toute sa filmographie, sinon ça n'aurait pas de sens.
Okay. Du coup, vous direz que c'est plutôt un réalisateur engagé ?
Alors, il a été engagé à certaines périodes de sa vie, mais c'est pas un cinéaste militant, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un dont la politique était la question centrale. Il avait des opinions, comme tout le monde, il les exprimait aussi en dehors de ses films. Mais je dirais pas que ses films... Alors, oui, il y a des aspects politiques dans son travail. Dans les années 70, il fait des films un peu sur la société égyptienne, alors parfois même dans le passé, mais qui sont en fait des films sur la société égyptienne de la période et la corruption et ce genre de choses. Et dans les années 90, il y a un grand moment politique pour lui, c'est la lutte contre l'intégrisme qui se manifeste à travers plusieurs films, dont le plus connu est Le Destin, parce qu'il a eu un prix à Cannes et que ça a été un film qui a beaucoup compté pour la reconnaissance internationale de Youssef Chahine. Donc je dirais pas que c'est un cinéaste engagé au sens où on l'entend traditionnellement, mais disons que la politique n'est pas étrangère à son cinéma à différentes périodes. Il a fait aussi un film autour de la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie. Il a fait quelques films comme ça qui quand même, mais il y a aussi toute une dimension dans son cinéma qui est beaucoup moins axée là-dessus, quoi.
Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'assister ou de composer, enfin, de voir un compositeur faire ou de composer vous-même une musique pour un film?
Enfin, moi non, puisque comme j'ai pas les capacités et le talent pour ça. Bah, j'ai pas vraiment vu un compositeur travailler, parce que voir un compositeur travailler, c'est un peu compliqué. Vous voyez, c'est quelqu'un qui soit écrit à la main sur sa partition, ou alors il travaille avec un ordinateur et on comprend pas forcément ce qu'il fait. Donc il y a un travail de recherche ou de mise en forme qui est peu spectaculaire, et sur lequel par contre j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de compositeurs et d'avoir de parler de leur travail le plus concrètement possible, et ça m'a permis quand même de percevoir, de comprendre de là un peu l'intérieur quand même, ce qui pouvait être le processus d'une musique de film, qui d'ailleurs n'est pas toujours semblable selon les cas, mais parce que parfois il y a des compositeurs qui composent la musique avant même d'avoir vu la moindre image, parfois des réalisateurs qui demandent au compositeur quand il arrive tôt, mais parfois c'est beaucoup plus tardif, c'est dans les dernières semaines, et il faut un peu faire les choses aussi rapidement que possible, parce que tout d'un coup c'est une activité qui est parfois ingrate, parce que vous êtes au service d'un film et parfois vous devez vraiment vous mettre, et en plus vous composez de la musique qui ne sera peut-être pas dans le film au final, parce qu'il y a des choses qui sont enlevées, donc c'est parfois assez ingrat, mais quand ça fonctionne bien entre le réalisateur ou la réalisatrice et le compositeur ou la compositrice, ça peut être magique, quoi. C'est-à-dire que le lien peut se faire de façon extrêmement naturelle et organique, et c'est très important, et ça devient très très important pour le film.
On peut citer peut-être des duos comme ça dans le cinéma.
Alors, des duos, quand le cinéma, il y en a beaucoup, hein. Il y en a eu dans le passé. Un des plus connus, c'est Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann, même s'ils n'ont fait que 7 films ensemble. Il y a Nino Rota et Federico Fellini. On peut citer en France, par exemple, Vladimir Cosma et Yves Robert. Bon, il a travaillé aussi avec d'autres cinéastes, hein, Gérard Houry et d'autres, mais Yves Robert, c'est une longue. On peut citer Claude Sautet, Philippe Sard, on peut citer David Cronenberg et Howard Shore, on peut citer Tim Burton et Danny Elfman, il y a beaucoup de duos, et c'est souvent quelque chose que les compositeurs comme les réalisateurs recherchent, c'est-à-dire qu'ils ont Pedro Almodovar et Alberto Iglesias qui travaillent ensemble depuis 30 ans. Quand un compositeur a trouvé son réalisateur, et réciproquement, on pourrait dire, c'est vraiment quelque chose qui est souhaitable, parce que ça permet de travailler aussi assez tôt, et il y a une connaissance intime de l'un et de l'autre qui permet aussi de faire un travail vraiment plus raffiné, peut-être plus profond. Donc c'est les duos, c'est quelque chose qui a été et qui est toujours. On peut citer même plus récemment Philippe Rombie et François Ozon qui ont beaucoup travaillé ensemble. Enfin bon, il y en a tout le temps dans l'histoire du cinéma, parce que c'est quelque chose. Henri Mancini et Black Edwards, ça fait vraiment partie des, non seulement du mythe, mais disons de l'idéal, on pourrait dire, du travail entre un réalisateur et un compositeur.
Du coup, j'ai lu dans la brochure de l'exposition que Youssef Chahine abordait beaucoup la comédie musicale et le mélodrame.
En fait, la comédie musicale et le mélodrame sont deux genres majeurs, avec la comédie du cinéma égyptien, qui était un cinéma dans les années 50 extrêmement vivant, avec une production abondante. Et les genres, ce sont des films de genre. Alors, il n'y a pas les westerns, puisque parfois il y a des films d'aventure aussi, hein. Mais sont beaucoup des films qui naviguent dans ces genres qu'on a cités, mélodrame, comédie et comédie musicale. Donc Chahine, naturellement, c'est un cinéaste qui a démarré très jeune, donc il s'est mis à faire les films qu'on lui proposait de faire, et les films qu'on lui proposait de faire, c'était souvent des films musicaux ou des mélodrames. Donc et peu à peu il a trouvé une forme d'autonomie à l'intérieur de ce cinéma-là. Mais déjà quand il faisait des films même de commande, on pourrait dire, parce que quand il fait un film par exemple avec un chanteur très connu qui s'appelle Farid El Atrache, ce sont des commandes, parce qu'il est au service de la vedette, mais il arrive toujours à tirer son épingle du jeu, ne serait-ce que par l'élégance avec laquelle ils filment les numéros de comédie musicale, qui sont souvent très bien filmés, dans une certaine continuité. On peut faire, si vous voyez des comédies musicales, je prends un exemple qui est à l'opposé, par exemple, je prends un exemple d'un film qui s'appelle Chicago, qui a été quelques années, eu pas mal d'Oscars et ça. Là, par exemple, Chicago, c'est un montage hyper haché. ou c'est pas Dancer in the Dark de Lars von Trier, sont des montages très très hachés, alors que chez Chahine, comme d'ailleurs dans les films américains de l'époque, il y a plutôt l'idée d'une continuité dans la manière de filmer et du coup il y a vraiment un plaisir de la musique et de la danse qui se déploie, et c'est pas simplement un exercice de style, il y a aussi un vrai amour de ça, quoi.
Au cours de votre vie de critique, est-ce que vous avez déjà eu l'impression, ou plutôt le sentiment d'avoir regretté d'avoir critiqué tel ou tel film ou tel réalisateur?
Ça peut arriver qu'on se trompe, enfin en tout cas qu'on se trompe, je sais pas si on voit, c'est pas un art objet, la critique n'étant pas quelque chose d'objectif, il entre parfois, bon, d'une part, une part d'humeur du moment qui fait que parfois on rate un film, et parfois un peu de mauvaise foi qui fait un peu partie aussi du jeu. J'ai bizarrement pas d'exemple en tête, mais c'est pas parce que ça m'est jamais arrivé, mais c'est parce que ça me revient pas à l'esprit. Mais oui, forcément. D'abord, il y a des films qu'on voit à un moment, puis on les revoit quand on... Vous en êtes pas encore là, mais moi j'en suis là, 30 ans plus tard, et des fois on n'a pas la même opinion qu'on a eue à cette époque. Des fois on est déçu, des fois au contraire on se dit, ah tiens, on aurait pu... Non, il m'est arrivé de regretter. Moi j'ai été rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma il y a maintenant pas mal d'années, et parfois, alors c'est pas forcément moi, mais ça peut être moi aussi, on ratait un film. Par exemple, je me rappelle d'un film de Gus Van Sant qui s'appelle Drugstore Cowboy, qui est aujourd'hui peut-être pas le film le plus connu qu'il ait fait, il avait pas été très bien traité dans les cahiers, et effectivement après on l'a vu, et enfin moi je l'ai vu, d'autres l'ont vu, et je me suis dit, tiens, mais pourquoi? Bon voilà, c'est des choses qu'on peut rectifier ensuite parfois, ou parfois des films qu'on trouve un peu surestimés. Il y a des cinéastes qui ont mal vieilli, dont le cinéma pas forcément très bien vieilli. Par exemple Bertrand Blier, qui dans les années 80 peut-être était un cinéaste qui était vraiment aujourd'hui peut-être les films sont peut-être plus problématiques au regard de la sensibilité contemporaine, ce qui veut pas dire qu'ils sont sans intérêt, mais disons moi je les vois peut-être pas de la même manière que je les voyais à l'époque où je les ai découverts, quoi.
Et est-ce qu'il y a un film, par exemple, que vous n'aimez pas voir ou que vous détestez?
Il y en a pas mal. Qu'est-ce que je pourrais citer? Je vais citer un film très connu, comme ça permettra. C'est pas non plus un film pour lequel j'ai une haine profonde, mais moi j'aime pas beaucoup, par exemple, Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, bon, qui est un film qui avait fait événement à l'époque, qui a été fait un peu polémique aussi, mais enfin bon, voilà, par exemple, c'est pas un film que je déteste d'une manière viscérale non plus, mais enfin, j'ai pas beaucoup de goût pour ce genre de cinéma. Et bon, voilà, c'est un exemple qui me vient en tête, mais il pourrait y en avoir d'autres.
Pourquoi c'était important pour vous de faire cette exposition et de rendre hommage à Youssef Chahine?
Déjà, c'est une composition qu'on m'a faite, donc c'est pas moi qui en étais à l'initiative, et je l'ai acceptée avec enthousiasme, parce que d'abord, il y avait le centenaire de Youssef Chahine qui se profilait, et donc c'est la raison pour laquelle le choix a été fait de faire cette petite exposition et ce programme autour de Chahine, puisqu'il aura 100 ans dimanche prochain, le 25, enfin il aurait eu 100 ans, pardon, il est mort, le 25 janvier, donc ça c'était la première chose. Et puis moi, c'est un cinéaste qui me tient à cœur, parce que j'ai eu pas mal l'occasion de... C'est quelqu'un que j'ai pas mal connu, je l'ai côtoyé au Caire, mais aussi à Paris quand il venait. Donc c'était une figure très attachante que j'aimais beaucoup, et qui représente aussi quelque chose qui s'est un peu brisé depuis, qui a une sorte de dialogue on va dire assez naturel entre le monde arabe et le monde occidental. Et je pense que un cinéaste qui était un peu un citoyen du monde, qui avait vécu dans une ville, Alexandrie, où coexistaient des communautés juives, musulmanes et chrétiennes de façon plus ou moins pacifique à l'époque, il vient d'un autre monde, et aujourd'hui dans une période où on est quand même, il y a une crispation assez importante dans ce lien, ce rapport compliqué post-colonial, on pourrait dire, entre notamment la France et le monde arabe. Je trouve que c'était important de mettre en évidence la figure de Youssef Chahine, et puis aussi parce que c'est aussi un plaisir de redécouvrir, je pense, ces comédies musicales qu'on connaît moins bien que les comédies musicales américaines, mais qui méritent vraiment d'être mises en évidence, parce que ce sont aussi un art très raffiné et qui, je trouve, a beaucoup de charme, quoi. Donc toutes ces raisons-là font que ça me semblait assez naturel et on va dire bienvenu dans la période actuelle de pouvoir parler, de pouvoir montrer, surtout parler c'est une chose, mais montrer c'est mieux, des extraits, des films aussi entiers de Youssef Chahine. Je pense que ça réétablit quelque chose de différent dans le rapport qu'on a avec ces cinématographies qui sont mal connues aujourd'hui en France, enfin, qu'il était déjà à une autre époque, mais peut-être moins. Et aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que c'est un cinéaste qui a eu, il y a 25 ans, tout le monde ne connaissait pas Youssef Chahine, bien évidemment, mais enfin, il était relativement connu dans le monde du cinéma. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Donc, il faut aussi faire un travail permanent, régulier, en tout cas, pour remettre en évidence des choses qui parfois sont un peu oubliés parce qu'on parle beaucoup du cinéma américain, du cinéma français, ce qui est normal, mais on peut aussi penser qu'il y a d'autres choses, qu'il y a aussi du cinéma qui existe ailleurs qu'en France et aux États-Unis, quoi.
Est-ce que vous auriez trois mots pour donner envie aux auditeurs de découvrir les films de Youssef Chahine ou du moins l'exposition?
Trois mots. Musique, danse, joie.
Merci.
Une petite question sur votre passé de scénariste et de réalisateur. Qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous écrivez ou que vous pensez à un film?
Je ne sais pas si je suis vraiment scénariste, parce que pour mes propres films, j'ai travaillé avec des scénaristes qui sont plus scénaristes que moi, on va dire. Qu'est-ce qui m'inspire? D'abord, j'ai pas fait de film depuis un petit moment, donc ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre au présent. C'est très difficile à dire, parce qu'on... Je sais pas, c'est une... Parfois, c'est rien. En fait, ça, beaucoup de cinéastes ont répondu à ce genre de questions. Et souvent, ça part de pas grand-chose, hein, d'un article de journal, d'un truc qu'on voit dans la rue, d'une situation qu'on nous raconte. Et tout d'un coup, ça enclenche une machine. La fiction peut s'enclencher à partir de là. Parfois, ça mène nulle part, mais parfois, ça... Après, c'est des envies. Moi, j'avais fait un premier film où la musique... En fait, moi, c'est souvent lié à la musique, parce que j'ai fait deux longs-métrages et quelques courts-métrages, et la plupart ont un lien avec la musique. Alors, parfois, c'est pas toujours le même genre de musique, mais j'ai fait un film, plusieurs films avec Philippe Catherine, le chanteur, que j'ai fait débuter d'ailleurs à l'écran. Et donc, en effet, la musique est sûrement une des choses qui m'a le plus inspiré. C'est un élément déclencheur. Je ne concevais pas l'idée de faire un film où la musique jouait pas un rôle assez important. Mais ça, c'est très personnel. D'autres gens vous répondraient des choses qui n'ont strictement rien à voir, quoi. Mais c'est assez un peu mystérieux. Alors, bon, après, ça dépend. Il y a des films qui se font à partir d'idées de production, adapter tel bouquin, tel truc. Bon, ok. Mais quand c'est un film, disons, on va dire un peu plus personnel, ça naît, voilà, des choses parfois très ténues, qui sont même difficiles de décrire, quoi.
Et une dernière question pour nos auditeurs. Thierry, comment on parle bien de cinéma à la radio?
Oula. Comment répondre à cette question? Parce qu'il faut que je parle moi-même pas mal. Écoutez, je pense qu'il faut rester dans une certaine simplicité. Comment dire? Ça n'exclut pas un peu de complexité, mais disons que il me semble qu'à la radio, le temps d'écoute est peut-être pas aussi long qu'il l'a été à une autre époque, ou en tout cas, parce que le temps d'attention c'est moins grand aujourd'hui pour des raisons diverses et variées. Donc je recommanderais plutôt de pas être trop long dans les interventions, d'être assez frontal dans ce qu'on raconte. Moi en tout cas à titre personnel. J'essaye de m'adresser à tout le monde. Alors, ça, tout le monde, ça veut rien dire, parce que tout le monde n'écoute pas ce que je fais moi ou ce que font d'autres. Mais enfin, disons, dans l'absolu, je ne veux pas m'adresser à un public spécialisé. C'est-à-dire que j'essaye d'être accessible à tous et à toutes. Et ça veut dire qu'effectivement, on renie pas ses ambitions pour autant, mais il faut réussir à être accessible. En tout cas, une population qui soit pas que des initiés, archi-initiés, qui en fond n'ont pas tellement besoin de moi. Du coup, ils ont pas. Donc il faut, oui, c'est ça, c'est essayer de s'adresser à différents publics, mais en restant dans une forme de simplicité dans l'expression. En tout cas, c'est-à-dire que les idées peuvent être complexes, mais il faut s'exprimer simplement. Moi, je suis pas universitaire, par exemple. J'ai rien contre les universitaires, bien évidemment, mais je veux dire, par exemple, il faut éviter peut-être de s'exprimer de manière trop technique. Alors évidemment, il y a des cas de figure où c'est nécessaire. Bon, bien sûr, il y a des... Quand vous parlez de science ou de médecine, bon, c'est des choses où il faut parfois passer par des... Même parfois dans le cinéma. Mais enfin, il ne faut pas en abuser. Il faut essayer, sans démagogie non plus, sans renier ce qu'on est et ce qu'on a envie de dire. Voilà, il faut essayer de l'exprimer le plus directement possible, je dirais. C'était Thierry Jousse sur la radio du cinéma.